notre invité au micro. Aujourd'hui, c'est Laurent Cassis. Salut Laurent.
Salut.
Et re-bienvenue à Radio Campus. T'étais venu l'année dernière, on avait parlé comics avec Alan Moore. Mm-hmm. Tu avais écrit notamment avec Nicolas Trespalet, le guide Alan Moore. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ta dernière BD, puisque tu es auteur, scénariste et traducteur. Ta dernière création s'appelle Mundus.
Ouais.
On va en parler en long, en large, en travers, en détail. On veut tout savoir de cette œuvre. Il y a des auditeurs qui veulent te découvrir ou te redécouvrir. Est-ce qu'on peut repasser en revue tes œuvres majeures ou ce qu'on peut savoir sur toi ?
Ben écoute, je suis, comme tu l'as dit, auteur, traducteur, scénariste de BD. Ce qui implique que ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'écris des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, et que je traduis aussi des romans et des bandes dessinées. Je traduis pas mal de comics américains, des romans de plutôt de genre, de science-fiction, William Gibson par exemple, mais je m'occupe aussi de pas vraiment de critique littéraire, mais j'ai dirigé par exemple l'intégrale des nouvelles de Philippe K. Dick dans la collection Quarto, et puis aussi j'écris des essais comme la fois où tu nous avais reçus avec Nico Trespalet. On avait écrit un essai sur une bio et une bibliographie commentée d'Alan Moore, quoi. Donc j'écris, en fait. Mon métier, c'est d'écrire pour les adultes, pour la jeunesse, sur divers supports, voilà.
Et t'as quoi comme formation pour exercer ce métier d'écrivain ?
Comme il n'y a pas vraiment de formation, écoute, il se trouve que j'ai fait mes études ici à ce qui s'appelait Bordeaux 3 à l'époque, hein. De la littérature comparée, et j'ai travaillé sur Dick d'ailleurs, et puis après tu apprends sur le tas. Maintenant il y a un master de traduction dans lequel j'interviens d'ailleurs, mais à l'époque tout ça n'existait pas, donc sur le tas tu commences à écrire des textes, tu les envoies, on te les renvoie assez vite dans la gueule et tu commences à apprendre un peu comme ça, et puis et pour la traduction c'est pareil, tu commences par des nouvelles et puis peu à peu tu apprends et tu finis par, j'espère, maîtriser un peu ton sujet.
Il y a des comics qu'on retrouve dans le commerce que tu as traduit, c'est lesquels les plus connus par exemple ?
Oh, écoute, j'en ai fait des centaines.
Ah ouais, beaucoup.
Ouais. Je travaille beaucoup pour Urban Comics, par exemple, où je m'occupe notamment des aventures de Superman. Hein. Donc, je ne fais pas toutes les BD où apparaît Superman, mais les principaux titres. Mais je bosse aussi pour Delcourt, pour 404 Comics, pour plusieurs éditeurs comme ça qui font de la BD américaine. J'ai fait, par exemple, une BD qui s'appelle All-Star Superman, qui est assez connu, de Grant Morrison et Frank Whiteley, et qui va apparemment inspirer le nouveau film Superman qui est en train d'être écrit.
Ah, je savais pas ça, d'accord.
Ouais. Donc j'ai pas fait de grands trucs très connus style Walking Dead, Watchmen, mais voilà, j'ai fait des tas de traductions de comics.
Ah bah, All-Star Superman, c'est quand même un des meilleurs comics de Superman qu'on puisse
c'est
trouver,
vrai.
Hein.
Ouais.
Grant Morrison, là, il était en forme, il avait pas pris de drogue cette fois-là.
Oh,
ou pas trop. On sait jamais avec lui. On va parler de Mundus. Voilà, mm-hmm. Mundus est sorti en août dernier aux éditions 404. C'est un ouvrage qui est très très beau. Déjà, physiquement, c'est une belle édition avec une belle couverture rigide, une super, super couverture toute colorée. Mundus, qu'est-ce que ça raconte ?
Écoute, c'est le voyage à travers des univers parallèles de trois adolescents qui se retrouvent comme ça envoyés dans d'autres univers. Et ils se rendent compte très vite qu'ils se retrouvent en fait dans des univers qui ne sont pas des univers parallèles, mais qui sont des univers de fiction. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent balancés dans un monde désertique qui leur fait penser très très vite à un roman qu'un des trois a lu. Et les deux autres ont vu le film, enfin voilà, un truc de science-fiction très très connu. Et puis ils se retrouvent dans un deuxième monde où ils croisent Sherlock Holmes. D'ailleurs, ils ne croisent pas Sherlock Holmes, mais un monde où Sherlock Holmes existe, mais qui n'est pas vraiment celui de Conan Doyle, etc. Donc c'est un voyage comme ça, une exploration de plusieurs univers de fiction et aussi une manière de questionner mes personnages et le lecteur à la fois sur est-ce que nous aussi, nous ne serions pas des personnages de fiction.
Et là, est-ce que ça ne rejoindrait pas ta passion pour l'œuvre de Philippe K. Dick ? Justement, tout ce qui est problématique sur l'identité, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas soi-même. Et quand on en apprend plus ou trop, c'est pire. On pense à Planète Hurlante, à Minority Report, tout ça. Tu t'es parti de cette problématique-là ?
Alors, je vais te dire, c'est plus quelque chose qui travaille Grant Morrison, par exemple, dont on parlait juste
d'accord.
avant. Dick, c'est plutôt les univers truqués, c'est-à-dire le monde n'est pas celui qu'on pensait, l'humain n'est pas celui qu'on pensait, mais c'est un androïde, c'est un robot. C'est plutôt ça chez Dick. chez Grant Morrison, il y a cette espèce de « on va briser le quatrième mur », mais mon personnage Animal Man va se rendre compte qu'il n'est qu'un personnage de BD. Et Grant Morrison apparaît lui-même dans la BD pour lui dire « non mais écoute Coco, il faut... c'est moi qui t'écris comme ça, donc t'es obligé de faire ça ». On est plus... Alors, je pense qu'on est entre ces deux extrêmes, si tu veux. Mais comme je suis influencé par l'un et par l'autre, voilà, je... c'est... rien de tout ça n'était conscient, évidemment, mais ça rejoint des questionnements qui, évidemment, me fascinent. Quoi.
Il y a d'autres auteurs, comme ça, de comics ou pas forcément, qui t'ont inspiré pour l'écriture de Mundus ?
Pour Mundus, spécifiquement, j'ai pas l'impression... Si tu veux, quand tu te mets à écrire, tu te dis pas « tiens, je vais m'inspirer d'un tel ou d'un tel vraiment spécifiquement ». Par exemple, très vite, j'ai pensé à la série Sliders, cette série des années 90 où un groupe de jeunes comme ça allait dans un truc épisodique où ils passaient d'un univers parallèle à l'autre. Je me suis dit, c'est le même concept en fait, mais le mien est complètement twisté et transformé. Il n'y a pas d'auteur précis qui m'ait influencé là-dessus. Disons que c'est un Après, il y a plein d'auteurs dont on retrouve les racines, la sève dans Mundus, évidemment, puisque c'est des univers de fiction. Donc, il y a du William Gibson, il y a du Conan Doyle, mais il y a du jeu de rôle, il y a du Star Wars, du Stargate, du Dune. Tout ce que j'ai pu accumuler. J'ai un peu d'expérience, je suis tout jeune, et donc tout ce que j'ai pu accumuler de culture livresque et de culture populaire, ben j'ai essayé de... Alors, j'ai pas pu tout mettre, évidemment, mais il reste d'autres volumes dans lesquels on pourra mettre plein de trucs.
Et oui, parce que là, il y a le tome 1 qui est sorti, il y aura forcément un tome 2. C'est une saga que tu vois en combien de tomes ?
Alors, on avait prévu 3 tomes au début avec l'éditeur. Là, on est en train de voir si on le fait en 2 ou en 3. On est en train de discuter. Moi, mon plan, c'était en 3, donc on va voir... Mais en tout cas, oui, on a... Et puis... Il se trouve que j'ai rencontré le dessinateur Oriol Roig, qui est catalan, qui habite à côté de Barcelone, et on a fait la BD sans se voir. Donc on parlait tous les jours en anglais sur WhatsApp, mais on ne s'était pas rencontrés. On s'est rencontrés en juin à l'occasion de l'avant-première de Mundus. Et puis on a fait une tournée promo dans plein de librairies en France en septembre. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble dans les trains, dans des dîners, dans des hôtels, et on a parlé de la suite, et on a fait plein de plans, on a eu plein d'idées, plein de nouveaux mondes, etc. Donc ça a vachement nourri ce qu'allait être Mundus 2 et 3, ou Mundus 2, je sais pas, mais on a vraiment, sans travailler, on a vraiment bossé et trouvé des choses.
Voilà, parce que t'es pas tout seul dans ce projet. Mundus, c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Il y a Nicolas Beaujouan au lettrage et il y a Oriol Roig au dessin, au magnifique dessin. Donc tu l'as dit, voilà, il est catalan. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez tous les deux sur ce projet ? Comment vous vous êtes rapprochés alors que en fait, vous étiez même pas rencontrés au début ?
Alors, Nicolas Beaujouan, que tu as cité au lettrage, c'est aussi l'éditeur du bouquin. C'est lui qui s'occupe de la collection. Et c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine d'années et avec qui je suis assez proche sur le plan amical, mais aussi sur le plan des idées, sur le plan des choses qu'on aime, sur le plan de notre façon d'aborder la littérature, le cinéma, etc. On voit un peu les choses du même œil, même si on n'a pas exactement les mêmes goûts, mais on se comprend, disons. Et quand il a monté la collection, donc c'est une collection qui traduisait des bandes dessinées américaines, qui s'appelait 404 Comics, il a voulu assez vite faire une collection qui s'appellerait 404 Graphiques et qui publierait là des œuvres originales. Et donc il a fait appel à moi avant même que la collection soit annoncée pour me solliciter. Est-ce que tu as des histoires ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Etc. Et donc je lui ai montré, j'avais 2 projets sous le coude, mais ça convenait pas tout à fait à la collection. Et puis je lui ai proposé cette idée, voilà, des jeunes qui vont dans des univers parallèles de fiction. Ah, là, ça, il y a un truc qui a matché chez lui. Et il a très vite rebondi dessus, puis on en a discuté, et puis c'est venu, et puis j'ai dit, mais bon, quand même, il faut que je mette ça dans les années 90, parce que moi, je peux pas écrire un truc avec des ados aujourd'hui, je les connais pas assez, ça me semblerait un peu plus artificiel, en tout cas. Et puis ça m'a amusé plus de faire ça à l'époque de ma jeunesse, voilà, où on pouvait aller dans des vidéoclubs et jouer avec cette culture pop-là, et le fait aussi que... On ne, On n'avait pas Internet, on avait un peu plus, on avait un accès moins facile à tout ça, et il y avait un espèce de côté quête du Graal qui était, avec le recul très agréable, à l'époque très frustrant, mais avec le recul très agréable, parce qu'on pouvait fantasmer des choses. Et c'est aussi un truc qui me paraissait important dans Mudus, de montrer la différence entre être immergé vraiment dans une histoire et en effleurer la surface, voilà. Mais là, je m'égare. Donc, je reviens à Nicolas Beaujouan, donc qui a été OK pour ce projet et qui m'a montré des dessins de ce jeune dessinateur qui n'avait pas fait grand-chose, qui avait fait juste des webcomics. Et j'ai dit, ouais, c'est chouette, c'est vraiment bien. On va essayer, on a essayé, c'était très chouette encore. Et je me disais, est-ce que ce dessinateur-là... Et puis, on discutait avec Auriol et il comprenait tout ce que je disais. Il est un peu plus jeune que moi, mais... Il avait toutes les références, etc. Je me disais, est-ce qu'il en a assez sous le coude pour faire ce que je veux ? Et puis j'ai vu très vite que ouais, quoi. Et donc j'ai durci les choses, c'est-à-dire j'ai fait faire des trucs plus compliqués. C'est-à-dire que si j'avais vu qu'il n'était pas au niveau, j'aurais peut-être mis la pédale douce sur certaines choses. Mais par exemple, l'épisode 4 là, du premier volume, c'est divisé en 5 épisodes. L'épisode 4 est une baston dans un huis clos. Sur 8 pages, il y a un combat silencieux, sans dialogue, dans un appartement clos. Et ça, c'était quelque chose que tous les dessinateurs n'auraient pas été capables de faire. Donc j'ai vu qu'il était capable de faire ça. Et donc j'ai écrit cette scène avec grand plaisir et il m'a pas déçu, quoi.
C'est bien que tu le précises, ça, parce que quand on le lit, en fait, nous, on est pris dans l'action, dans justement ce combat qui est magnifiquement chorégraphié. Mais en fait, ça, pour un dessinateur, c'est un sacré défi, en fait.
Ah ouais, c'est très compliqué. Même pour moi, parce qu'il fallait penser à l'action, il fallait comment on se bat dans un espace aussi restreint. Donc à un moment, je fais sortir un des personnages, mais il revient très vite. C'était mon espèce de assaut de Carpenter à moi sur 8 pages tout mini avec des vampires évidemment de l'espace, hein, parce que voilà, et le professeur Watson qui est là au milieu avec un tromblon en train de tirer sur les vampires. Donc voilà, on en est là, on est dans ce délire là de mélanger plein de références et de d'essayer de garder tout ça cohérent, quoi.
On peut rester sur justement les dessins d'Auriol Roig et de rendre la chose radiophonique. Comment on peut le décrire, son style graphique ?
Peut-être inspiré beaucoup par les comics et les mangas, plus qu'européens. Sa BD préférée, Auriol, c'est Akira. Ça se voit pas forcément sur son style graphique, par exemple, mais par contre sur sa façon de découper les scènes, ouais, là ça se voit. Il y a cette pêche qu'on retrouve chez Otomo. Pas mal de gens l'ont comparé à Sean Gordon Murphy, un dessinateur qui a fait des Batman, etc., qui est à ses côtés en Américain. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Moi, je dirais que c'est un style plutôt américain, rehaussé d'un découpage japonais, quoi.
Ce qui m'a beaucoup plu, justement, c'est la finesse du trait et tout ce qui est jeu d'ombre et de couleurs qui, pour bien marquer les ambiances, et il y en a plein, parce que voilà, c'est des ados, tu l'as dit, qui parcourent des univers de fiction. Et surtout, il y a des combats, il y a une pêche de malade, il y a des chorégraphies. On a une impression de vitesse et de violence dans les combats. Et ça, je pense que c'est vraiment le résultat que tu voulais, quoi. Je connais ton goût pour les comics, il y a forcément des combats, tout ça. Et ces codes-là, on les retrouve dans Mundus.
Moi, je voulais que ça aille assez en l'air. Je voulais qu'il... Alors, outre le fond dont j'ai parlé, je voulais que ça se lise vraiment comme un comics. Et quand Nicolas Beaujouan m'a parlé du format envisagé, pas exactement comics, mais plutôt dans le genre, et sachant qu'il avait aussi une collection de comics à côté, je me suis dit, on va y aller à fond. On va faire comme si c'était un vrai comics, c'est-à-dire découper... chaque partie en 22 pages, comme si c'était un fascicule de comics. Et là, on proposera ce qui serait le recueil des 5 premiers épisodes. Donc, il y a des cliffhangers, même à la fin de chaque épisode à l'intérieur de ce volume, quoi. On s'est amusé avec ça, vraiment. Et ouais, ouais, et Auriol, c'est sa première BD, quoi. Ça, c'est quand même fou, quoi, parce que c'est incroyable. Il était libraire. Il tenait une librairie, il en a eu marre, il a vendu sa librairie, il est allé, avec l'argent qu'il a gagné de la vente, il est allé faire une école de dessin à Barcelone, Et quand il a commencé Mundus, il n'avait pas tout à fait encore fini l'école. Pendant 2 ans, ah, il a fait cette école. Et voilà, quoi. Et c'est bluffant, quoi.
Ouais, ouais, c'est bluffant. Je pensais qu'il était rodé tellement le résultat est bah, génial, en fait.
Ouais.
Tu parlais de l'édition 404 avec les collections dedans. Là, c'est 404 graphiques, mais il y a aussi 404 comics. Mmh. Et justement, dans les librairies, parfois Mundus, il est au rayon BD, parfois il est au rayon comics. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah écoute, moi je préférerais qu'il soit au rayon BD parce qu'on en vendrait plus. Non, le problème c'est qu'il est. C'est pas vraiment un comics, tu vois. On s'est amusé à jouer avec ce format, etc. Mais c'est pas une BD de super-héros. Et puis voilà, c'est fait par un scénariste français, un dessinateur espagnol. De loin, ça peut ressembler à un comics quand tu le lis. Et c'est d'ailleurs un des atouts que m'ont fait remonter pas mal de lecteurs. C'est que c'est pas une espèce de wannabe comics, c'est-à-dire que l'histoire se passe dans une petite ville du sud-ouest de la France, qu'au lieu d'Halloween, eh ben, le final se passe lors de la fête de la musique, par exemple, un truc très très français, enfin, que toutes les références sont françaises, et moi j'avais envie de jouer avec ça, et ça c'est un truc qui plaît vraiment, quoi. Je crois que les gens en ont marre de lire des romans ou des BD faits par des Français qui se passent à Austin au Texas avec des agents du FBI, on voit tout de suite que c'est faux, quoi, et alors que nous on peut exploiter ce matériel, c'est-à-dire notre culture, nos références à nous, et on peut faire du genre avec, quoi. Il y a aucune restriction là-dessus, quoi. Le genre, il existe depuis Jules Verne, depuis Cyrano de Bergerac. Enfin, voilà, le fantastique, la science-fiction, la fantasy. Il y a une vraie culture française de ces genres, quoi. Donc, faut pas hésiter. Et malgré cette histoire qui est quand même une espèce de délire improbable, eh ben, dans ce contexte français, ça marche. Et c'est un truc que vraiment les lecteurs, les critiques m'ont fait remonter et qu'ils apprécient vraiment, en fait.
Ouais, ça marche vraiment parce que bah, quand on ouvre le comics, on voit que ça se passe en 91. Alors là, on se dit, en ce moment, c'est la mode des histoires qui se passent dans les années 80 ou 91. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est que les auteurs ont grandi dans ces périodes-là. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces périodes. Mais avec cette ambiance française et ces références, en fait, on est tout de suite accroché. Et finalement, c'est quelque chose de nouveau quand on lit quelque chose qui a une structure de comics. C'est que voilà, on n'est pas emmené aux États-Unis, donc c'est vraiment chouette. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu emmènes le lecteur dans toutes les références qui te tiennent à cœur. Donc il y a forcément une planète qui évoque Dune. Il y a aussi le jeu de rôle Vampire la Mascarade, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu avais ça en tête déjà? Parce que quand je l'ai lu, en fait, il y a un chapitre qui m'a fait penser à ça, mais je n'étais pas sûr de la référence.
Alors c'est marrant parce que tout le monde voit ce qu'il veut. C'est ça qui est super, en fait. C'est parce que, en effet, moi je pensais à Dune pour le monde désertique. Mais Auriol, par exemple, lui, il s'est inspiré de Stargate pour faire les designs des costumes des personnages, quoi. Donc, ils sont plus égyptiens que... Et pas mal de gens m'ont dit, mais c'est Star Wars, en fait, ton truc. C'est Jabba. Donc, voilà, chacun voit ce qu'il veut. Et alors, Vampire la Mascarade, écoute, je sais ce que c'est. Je n'y ai jamais joué.
Voilà. C'est dingue parce que c'est exactement à quelques petits détails près. C'est exactement ce qu'on trouvait. Bah, ça, c'est génial, alors que chaque lecteur peut avoir une interprétation à sa manière.
Mais voilà, l'idée du monde dont tu parles, c'était vraiment une idée de pulp, c'est-à-dire une idée, voilà, des vampires de l'espace un univers steampunk. Et je me suis dit, cette idée est un peu tarée, mais elle ferait un bon univers de jeu de rôle, quoi. Donc, donc j'ai dit que c'était un jeu de rôle, mais... Ou alors... Peut-être que j'avais lu un résumé de Vampire et que c'est ressorti sans que je m'en rende compte, que c'est très possible aussi, hein, mais en tout cas, non, j'y ai pas pensé du tout. D'ailleurs, je sais même pas de quoi ça parle, Vampire la Mascarade.
Bah c'est pareil, c'est des vampires qui vivent en secret dans la société auprès des humains et qui doivent cacher leur existence pour pas se faire défoncer par la société humaine qui est beaucoup plus nombreuse, en fait, et beaucoup plus puissante. Donc c'était, voilà, des petits éléments, mais en fait, voilà, on recherche, comme tu indiques dès les premières pages, qu'on va être plongé dans un univers de référence. Peut-être que chacun a ses
Mais c'est bien que chacun voit ses propres trucs.
Et alors justement, moi, c'est quelque chose qui m'avait titillé quand je lisais, c'est que j'étais pas sûr de choper les références ou de savoir si c'était des références qui existaient vraiment ou si tu détournais pour cause de raisons de droit. Notamment, là, moi, ça me faisait penser à Arrakis, mais la planète, elle s'appelle Tonkis. Mais en fait, non, c'est parce que c'est vraiment des univers de fiction, mais qui n'existent pas encore plus, c'est inventé, quoi.
Évidemment, j'aurais pas eu le droit d'utiliser Dune. D'utiliser Arrakis, enfin, voilà, il aurait fallu payer, je pense. Enfin, non, j'aurais pas eu le droit. Et J'avais le droit d'utiliser Sherlock Holmes, par contre, qui est libre de droit. Donc on voit le professeur Watson. Mais ça ne m'intéressait pas d'utiliser simplement ni Dune tel qu'il est, ni Sherlock Holmes tel qu'on le connaît, mais je voulais twister. Et une des raisons, justement, c'était pour avoir la réaction que tu as eue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on connaît, mais oui, non, c'est quoi exactement? Et sinon, le vertige que je voulais induire au personnage et au lecteur aurait moins marché, en tout cas. Ouais. Je pense que ça aurait moins fonctionné.
Et du coup, on n'est pas obligé d'avoir une culture populaire de malade pour apprécier Mundus.
C'est ça, c'est que moi, je joue avec des références que les gens qui ont une meilleure culture populaire que moi, par exemple, ils vont voir d'autres références que moi, j'ai pas songé à mettre ou que voilà. Et ceux qui en ont moins, mais c'est pas grave, ils vont quand même apprécier le chemin et suivre l'histoire sans problème. Et voilà, donc, ouais, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que il n'y a pas à avoir la ref ou pas la ref, il n'y a pas de ref. Chacun, il voit ce qu'il veut. Et moi, je donne des choses. Auriol a mis autre chose et chacun se débrouille avec ce melting pot, quoi.
Tu nous disais tout à l'heure que t'aimerais bien que Mundus y soit constamment en rayon BD pour mieux se vendre. Ça donne quoi en ce moment les ventes pour Mundus?
Bah écoute, c'est pas mal. Ouais. On est pas mécontent, donc assez pour qu'on fasse la suite. Donc puis surtout, tu sais, bon, alors les ventes c'est pas trop mon boulot, quoi.
Ouais, mais, bien sûr.
Mais en revanche, l'accueil. Donc on a fait une tournée en septembre. L'accueil dans les librairies a été excellent et puis les critiques ont été folles. On a eu vraiment énormément de presse spécialisée ou non d'ailleurs. Donc ouais, on a touché un truc. Je pense que ce côté, ce qui ressort vraiment hein, des critiques, c'est ce côté « Ah tiens, c'est un comics ? Ah mais non, ça se passe en France ? Ah mais... » Ah voilà, cette espèce de choc. Et vraiment, les gens sont... Enfin les gens, les critiques qui ont écrit dessus en tout cas sont... semble assez heureux de qu'on se réapproprie un peu ce que font notre auteur. Hein. Je suis pas du tout le seul. Hein, ce que fait Serge Lehmann avec la Brigade Chimérique, etc. Qu'on se réapproprie un peu nos éléments culturels propres pour faire du genre avec. Quoi.
Alors on le trouve dans toutes les bonnes librairies hein, à 16,90€. Je crois que le prix ne change pas. Et je cherchais le nombre de pages, mais je l'ai pas. Mais c'est un gros bouquin.
C'est 110.
110.
Ouais,
d'accord.
Ouais. C'est 22 x 5.
Très bien. Et est-ce qu'il y a un aspect particulier de cette BD qui te rend particulièrement fier ?
Écoute, non, il n'y a pas de... je suis content de tout, en fait. Je suis très content du boulot d'Auriol. Je suis content qu'on s'entende aussi bien aussi et qu'on ait fait un truc vraiment qui nous ressemble tous les deux. C'est-à-dire que c'est pas deux collaborateurs qui bossent chacun dans leur coin et qui font leur truc. On s'est vraiment... bien entendu, et ça a enrichi le projet. J'ai essayé de ne pas avoir trop d'avance sur lui. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit tout et je n'ai pas envoyé tout le script, mais j'avais 10 ou 20 pages d'avance. Comme ça, je pouvais réagir à ce qui... Voilà. Par exemple, un personnage qu'on voit au début dans le vidéoclub où les personnages vont louer un film d'horreur à dessous, il m'a plu quand il l'a dessiné. Il a dessiné une façon... Je me suis dit, il a mis un prénom sur son badge et j'ai dit il faut réutiliser ce personnage et elle revient à la fin. Donc voilà, si j'avais créé tout le scénar, ce personnage serait pas revenu, mais voilà, c'est vraiment un truc, tiens, il a dessiné quelque chose qui me donne envie de d'écrire quelque chose autour de lui ou de partir dans une autre direction. Et donc on a vraiment bossé comme ça et je pense que c'est ça, c'est le moi qui me rend le plus fier, c'est le plaisir que j'ai pris à l'écrire. Quoi.
Et est-ce que Auriol a eu des difficultés parfois pour bien dessiner ou rendre cette ambiance française? Parce que même si c'est avec l'Espagne, ces deux cultures qui sont très proches, il y a des choses qui font espagnoles, d'autres qui font françaises. Est-ce que parfois tu as dû le reprendre?
Déjà, je lui donnais pas mal de docs de référence. Quoi. Par exemple, tiens, la maison d'Anaïs... Je lui ai envoyé une maison sur Google Street View,
d'accord,
quelque chose voilà, d'un quartier qui correspond. Et puis, il se trouve que lui, il avait de la famille près de Bergerac, un oncle. Donc, il était allé plusieurs fois là-bas. Il voyage beaucoup, Auriol. Donc, Donc, il n'était pas dépaysé, quoi. Il a pris des images. Quand j'ai dit, bah, là, il faut dessiner un bar, il a dessiné le bar. Les espèces de barrières où on accroche les vélos, voilà, il les a dessinés comme il faut, etc. Il y a un truc que j'ai demandé qu'il est, il savait pas ce que c'était. C'était cette manie qu'on avait dans les années 90 ou 80 de relever les guidons des vélos de course. C'est-à-dire
Oui.
Et donc ça, c'est un détail que les lecteurs ont dit « Ah ouais, c'est vrai, c'était comme ça. » Bon, lui, il connaissait pas ça. Et l'autre truc qui était rigolo, c'était... y a une scène qui se passe dans une cuisine et je lui dis, ben voilà, il faut que tu fasses une cuisine des années 80-90. Je suis allé chercher des photos, etc. Et puis j'en ai envoyé. Puis il m'a dit, ouais, c'est bon, te casse pas, ma mère avait la même. Donc voilà, les cuisines étaient pareilles, hein, en Espagne que chez nous, quoi. Mais donc, moi j'aime bien envoyer pas mal de docs pour montrer mon idée, en fait, quand j'ai vraiment une idée précise. Et puis après... s'il a mieux, et souvent il avait mieux, ben voilà, il fait mieux et c'est super, quoi. Mais j'aime bien ne pas le laisser à faire ses recherches de son côté, il va perdre du temps, alors que moi je sais très bien ce que je veux, etc. Donc voilà, on a pas eu de difficulté du tout et j'ai rien fait refaire, en fait, parce qu'on s'était entendu avant.
Alors, ce qui est cool avec cette édition de Mundo, c'est qu'à la fin, il y a des bonus, il y a une galerie de personnages, évidemment, mais il y a aussi, on peut voir des scripts que toi, tu as écrits, voir comment on fait les dialogues, et ça, c'était quelque chose que je m'étais toujours demandé, à quel point le scénariste écrivait les dialogues, ou si c'était au rôle du dessinateur de les mettre dedans. Donc là, on peut voir vraiment tous ces petits bonus, quoi, les coulisses de Mundo.
Alors, j'ai d'ailleurs dû traduire ce scénario pour qu'il soit dans le bouquin, puisque moi, j'avais écrit le scénar en anglais. Pour Auriol, qui ne parle pas français.
Ah oui, bah oui, forcément.
Donc, lui, il parle catalan. Moi, j'étais incapable d'écrire en espagnol. Enfin, voilà. Donc, on a toujours discuté en anglais. Et donc, j'ai écrit le scénar en anglais, sauf les dialogues que je laissais en français et que, voilà, il comprenait à peu près. Et donc, j'ai traduit les quelques pages qu'il y a en français pour les bonus. Mais... ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu copier des discussions WhatsApp, quoi, où on parlait, voilà, de la cuisine, ouais, de nos mères et des guidons retournés, quoi. C'est, le vrai boulot, il est aussi là, quoi. Voilà. La collaboration, elle est là. Là, c'est juste la partie du boulot que moi je fais, et après, derrière, il y a encore un peu d'osmose qui doit se faire, quoi.
Et pour la suite, alors, qu'est-ce qui attend les lecteurs pour le tome 2, par exemple?
Ben, plein de trucs. Je vais rien dévoiler.
Tu vas rien dévoiler, non, c'est très bien, il ne faut pas, de toute façon.
Je vais rien dévoiler, mais certains persos vont revenir. Bah, ça, je peux le dire, mais les deux persos du début, les persos cyberpunk, vont revenir. On a eu deux, trois idées démentes avec Auriol de références, d'idées de mise en page, etc. Donc ça, on va les mettre. Et puis voilà, on va essayer de garder ce rythme et garder cet intérêt. Et puis on va essayer de dévoiler voilà ce qui se passe vraiment dans Mundo, quoi.
Oui, parce que on va rien dire. Ah là là. Et il sort quand, ce tome 2, alors?
Eh ben écoute, il faut déjà qu'on s'y mette, quoi, parce qu'on n'a pas commencé encore. On est tous très occupés, quoi. Donc moi, je m'y mets bientôt. Donc je pense qu'il va y sortir. J'espère début 2024 ou... Enfin, voilà, en 2024, quoi.
2024. Ouais. Il vous a pris combien de temps à élaborer ce premier tome?
On a mis, je crois que du tout début à la fin, on a mis 2 ans, avec une espèce de début très lent, où on s'est un peu reniflé avec Auriol, voilà, comment on fait, et puis on n'était pas pressé, et puis les 6 derniers mois allaient très très vite, parce que là on avait une date de sortie, une deadline, etc. Donc on avait un coloriste aussi qui n'a pas fait l'affaire, et puis donc Auriol a repris les couleurs, il n'avait pas prévu de tout faire, enfin lui il a fini un peu sous les rotules à bosser 7 jours par semaine, un peu trop, quoi, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça se voit pas dans le bouquin. On voit pas qu'il a été complètement épuisé à la fin.
Donc on vous invite, chers auditeurs, si ça vous a donné l'eau à la bouche, Mundus, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. C'est 16,90€ aux éditions 404. Ça se trouve normalement au rayon BD, mais parfois au rayon comics, à côté de l'énorme rayon manga. Malheureusement, ça marche pas pareil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Laurent?
Ah ben écoute, que ça continue comme ça. Moi, je suis très heureux dans ce que je fais. Tant que je peux le faire, c'est super. Voilà, je vais pas... demander plus.
Où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes infos, tes actualités, tes nouvelles publications?
Ah ben écoute, j'ai un site, j'ai un Twitter, j'ai un Instagram, enfin voilà, j'essaie de tenir les gens au courant des publications et de ce que je fais quoi.
Donc Laurent Quessy, hein, c'est Quessy, c'est Quey2si, on précise vu qu'on est à la radio. Et puis une dernière question, avant de se quitter, tu lis quoi en ce moment? Est-ce que tu as des recommandations pour nos auditeurs?
Alors écoute, là je lis, je suis en train de lire un vieux livre de Robert Silverberg qui s'appelle Night Shift, Les ailes de la nuit, que j'avais jamais lu, qui est du Silverberg de l'excellente période là, c'est 68 ou 69, voilà. De 68 à 72, il a fait que des chefs-d'œuvre après avoir fait pendant 10 ou 15 ans des nouvelles dans des pulps et des romans porno pour gagner sa vie, quoi. Enfin, érotico, voilà. Ouais. Donc là, c'est très très bien. Et parallèlement, je lis un truc de nerds pour le coup, vraiment tapé. Je lis une histoire orale, tu sais, où tous les gens racontent de leur point de vue quelque chose,
ouais.
de Star Trek, des 50 ans de Star Trek. C'est un bouquin énorme et c'est assez... Même pour les gens qui n'aiment pas... Je ne suis pas un passionné de la série, je connais très mal. Mais ce genre de coup d'œil derrière les coulisses me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est souvent plus fascinant que ce qui est montré devant. Quoi. Donc c'est très, très intéressant et j'aime bien voir comment est faite la tambouille.
Laurent Quessy, merci beaucoup d'être venu à Radio Campus nous
merci.
Présenter Mundus, une BD donc vraiment de science-fiction, absolument géniale à se procurer. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Ben, Anaïs et Matt. Et bonne continuation.
Merci.
Campus Bordeaux.
Bordeaux, I show you.
88.1.